VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Il est 13h, temps universel. Bonsoir, bienvenue. Au moins 6 partisans des frères musulmans ont été tués ce vendredi au Caire dans des affrontements avec la police. Camille Gros-Didier.
L'agence de presse officielle, qui cite une source au ministère égyptien de l'Intérieur, a déclaré que les forces de sécurité sont intervenues lors de heurts entre des militants islamistes, fidèles à l'ex-président Mohamed Morsi, et des habitants de la capitale. L'incident est survenu lors d'une marche des islamistes après la prière du vendredi dans un quartier proche des pyramides de Gizeh. La police aurait arrêté 15 membres armés de la confrérie qui est interdite en Égypte. Des violences ont été signalées dans d'autres parties du pays, notamment dans la ville de Naïa, alors que les Égyptiens célèbrent l'Eid, la fête marquant la fin du mois de Ramadan. Une vingtaine de membres des frères musulmans ont été interpellés à Alexandrie, toujours selon l'agence de presse officielle.
Et au Nigeria, 3 mineurs kamikazes sont à l'origine des explosions qui ont tué ce vendredi matin au moins 13 personnes à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Selon la police, l'état de Yobe est l'un des 3 états du nord-est du pays les plus durement touchés par Boko Haram. Le mois de Ramadan a été particulièrement meurtrier cette année, avec notamment des fusillades de fidèles au moment de la prière et des attentats suicides dans les mosquées. Au Mali, plusieurs djihadistes tués par l'armée dans le sud du pays, limitrophe de la Côte d'Ivoire. Leur principal camp a été détruit dans une forêt jouxtant la frontière ivoirienne. 2 militaires maliens ont été blessés au cours des opérations.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Les négociations pour tenter de trouver une issue à la crise burundaise ont repris aujourd'hui à Bujumbura, dans une ambiance tendue par la volonté réaffirmée du pouvoir d'organiser coûte que coûte l'élection présidentielle prévue mardi. À quelques jours du scrutin fixé au 21 juillet, les délégués du gouvernement, du parti présidentiel, CNDD-FDD, de l'opposition et de la société civile, ainsi que 2 anciens chefs de l'État burundais, ont repris les discussions à la mi-journée sous l'égide du ministre ougandais de la Défense, Crispas Kiyonga, venu prendre le relais de son président, Yoweri Museveni. Au Rwanda, controverse autour des conditions de détention de la dirigeante d'opposition, Victoire Ingabire, condamnée à 15 ans de prison. Le point avec Nicolas Pinault.
C'est le parti de Mme Ingabire qui a dénoncé un durcissement très sévère des conditions de détention de la présidente des forces démocratiques unifiées à la prison centrale de Kigali. Faux, répond le commissaire général des services correctionnels rwandais. Paul Rwarakabidje a démenti ces informations. Cette lettre ouverte de ce parti qui n'est pas acceptée actuellement dans notre pays, je prends ça pour un tract politique, a-t-il déclaré à l'agence France-Presse. À l'étranger, lors du génocide de 1994, Victoire Ingabire était revenue dans son pays en 2010 pour se présenter à la présidence contre le chef de l'État sortant, Paul Kagame. Elle avait été arrêtée peu de temps après son arrivée, après avoir demandé que les auteurs de crimes contre les Hutus soient aussi jugés. Victoire Ingabire avait été condamnée en décembre 2013 pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre et minimisation du génocide de 1994 contre les Tutsis.
En République démocratique du Congo, le dialogue national sur l'avenir des institutions organisé par le président Joseph Kabila rend ses conclusions aujourd'hui après 5 jours de discussion à Sibiti. Coup dur pour la liberté de la presse au Sénégal, 3 journalistes y attendaient hier d'être présentés à un procureur de Dakar pour violation du secret dans 2 affaires distinctes. Claire Morin-Gibault.
Le premier quotidien d'information sénégalais, l'Observateur, appartenant au groupe de presse du chanteur Youssou N'Dour, est sous le feu des autorités judiciaires. Pour un papier concernant l'envoi de 2100 soldats en Arabie Saoudite, Alioune Badara Fall, le directeur de publication du journal, ainsi que Mamadou Sek, le journaliste ayant rédigé l'article, ont été interpellés dans leur rédaction et accusés de violation du secret défense. Placés en garde à vue mardi, les 2 journalistes ont été présentés au parquet. Mohamed Gueye, directeur de publication du journal Le Quotidien, était également jeudi après-midi dans l'attente d'une audition par un juge, a affirmé à l'AFP Ali Fall, membre de la rédaction et secrétaire général de la section syndicale du journal. Selon M. Fall, il est reproché à M. Gueye une violation du secret de l'instruction pour avoir en juin publié in extenso des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie sur l'affaire dite Tion Sek. Monsieur Sek, grand nom de la musique sénégalaise, a été arrêté fin mai et incarcéré début juin pour tentative d'escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre d'une investigation sur des faux billets.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Barack Obama, attendu au Kenya dans une semaine, ne rendra pas visite à sa famille dans le village de Kogelo, dans l'ouest du pays, où est enterré son père, a annoncé l'ambassadeur des États-Unis à Nairobi. Lors de cette visite très attendue au Kenya, sa première depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain restera dans la capitale. Pour des raisons de sécurité, on sait encore très peu de choses du programme de la visite présidentielle. Seule certitude, selon l'AFP, le président Obama doit participer à un sommet mondial de l'entrepreneuriat qui s'ouvre le 24 juillet à Nairobi. Il doit ensuite se rendre dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, une première pour un président américain en exercice. Et maintenant, un bilan de la troisième conférence internationale sur le financement du développement qui s'est terminée hier à Addis Abeba en Éthiopie. Lionel Gaïma.
Le programme d'action d'Addis Abeba adopté à cette conférence de 4 jours en Éthiopie porte selon la Commission économique de l'ONU pour l'Afrique sur une série de mesures audacieuses pour réformer les pratiques financières mondiales et générer des investissements pour faire face à un nombre de défis économiques, sociaux et environnementaux. Il offre ainsi un cadre financier pour les objectifs du développement durable qui vont prendre le relais des objectifs du millénaire pour le développement et qui doivent être adoptés en septembre à New York. Mais ce nouveau cadre n'inclut pas une instance autonome chargée d'asseoir la gouvernance mondiale en matière de fiscalité, ce que réclamaient les ONG. Les impôts ont occupé une bonne partie des discussions à Addis Abeba où il a été souligné qu'une autorité fiscale forte, à la différence de l'actuel comité consultatif de l'ONU sur la fiscalité, pourrait dans les pays en développement lever d'énormes sommes d'argent et mettre fin à l'évasion fiscale dont sont accusées les compagnies internationales. L'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays riches se sont opposés à la création d'une telle autorité dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Alvin Monsioma, directeur exécutif du réseau de la justice fiscale en Afrique, se fait félicite d'un certain nombre de ces éléments, mais, ajoute-t-il, les organisations de la société civile estiment que l'accord n'est pas aussi ambitieux qu'elles l'espéraient. Je crois que les pays en développement ont subi des pressions de la part de pays riches pour accepter ce document de compromis. Je crois que les gros intérêts ont prévalu, les intérêts des riches en particulier. L'accord d'Addis Abeba comprend une série d'actions et d'initiatives dont la création du Forum mondial pour les infrastructures afin d'identifier et combler les lacunes dans son domaine. Bien que l'ONU qualifie cet accord d'historique et de tournant dans la coopération internationale, certains de ses points sont très similaires à ceux qui avaient été adoptés il y a 15 ans. Par exemple, les pays présents se sont engagés à consacrer 0,7% de leur PNB à l'aide à l'étranger.
À l'occasion de l'Eid el-Fitr, la fête de la fin du mois de Carême, le président américain Barack Obama a souhaité hier aux musulmans un joyeux Eid, tout en saluant l'initiative de la ville de New York de proclamer ce vendredi jour férié dans ses écoles. Et l'administration Obama continue ses efforts pour convaincre les sceptiques de la validité de l'accord de Vienne en Autriche sur le nucléaire iranien, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se prépare à ratifier le document lundi. Le président Obama s'entretient aujourd'hui avec le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Joubert dans le cadre de cette campagne. On termine avec du sport et du football. Pour commencer, le défenseur international français Younes Kaboul, qui joue à Tottenham, s'est engagé pour 4 saisons avec Sunderland. C'est ce qu'ont annoncé les deux clubs anglais hier sur leur site internet respectif. L'ancien joueur de l'AJ Auxerre, âgé de 29 ans et qui compte 5 sélections en équipe de France, évolue avec Tottenham depuis 2010. Le montant de son transfert est estimé à 3 millions de livres, environ 4,3 millions d'euros. Et tennis, pour finir, l'Espagne est bien partie pour s'imposer facilement en Russie après les victoires de Tommy Robredo et Pablo Anduja dans les deux premiers simples du deuxième tour du groupe 1 de la Coupe Davis ce vendredi à Vladivostok. Cinq fois sacré en Coupe Davis et déterminé à remonter au plus vite dans le groupe mondial, l'Espagne a fait le long voyage vers l'extrême est de la Sibérie dans ses deux meilleurs. Sans ses deux meilleurs joueurs, Rafael Nadal et David Ferrer. Merci de nous avoir suivis, Jean-Roger Billon, à ce micro. Retrouvailles dans 50 minutes pour un nouveau point de l'actualité. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.